La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, quatrième émission autour de Bergson, mais cette fois-ci, vous aurez droit à un effet stéréo. En effet, Jean-Christophe René, physicien de formation, ingénieur dans le domaine spatial pendant 30 ans, philosophe par goût et par compétence, puisqu'il est titulaire d'un master 2 de l'Université Jean Jaurès, a relevé le défi. Sans être du tout connaisseur de maritain, sans être croyant au sens chrétien, il propose de lire avec nous Jacques Maritain. Bonjour Jean-Christophe et merci.
Merci Claire et bonjour aux auditeurs de Radio Présence.
Nous allons tous deux essayer de voir si Maritain peut parler à nos contemporains, si on peut le rendre présent sur la scène philosophique, quelles en sont les limites, quels en sont les enjeux. Et votre lecture nous est très précieuse puisque vous n'appartenez pas du tout à cet univers de pensée.
Merci Claire pour cette invitation à une lecture philosophique de l'œuvre de Jacques Maritain que je découvre à cette occasion. Il s'agit pour moi d'un exercice difficile qui consiste à entrer dans cet univers de la pensée chrétienne réaliste qui m'est parfaitement étranger.
Oui, de fait, vous avez soutenu votre devoir de master sur la question de la causalité descendante à partir d'un article de Michel Bidbol qui lui-même répond à Quentin Meillassoux à propos du réalisme dans les sciences. Et nous sommes très loin finalement avec le mot réalisme dans les sciences du réalisme proposé par Jacques Maritain, d'où l'intérêt de votre approche.
Tout à fait. Et à votre invitation, j'ai commencé par une lecture chronologique de l'œuvre de Jacques Maritain et donc en commençant par la philosophie bergsonienne publiée en 1913 avec une préface de la seconde édition de 1929. Et je vous propose de nous arrêter dans ce premier moment à la première phrase du premier chapitre qui a constitué pour moi le premier obstacle. Le point de départ ordinaire des métaphysiques modernes, surtout depuis Kant, est l'opposition a priori du sujet et de l'objet, du connaissant et du connu, qu'il s'agit d'abord de présenter l'un à l'autre et dont il faut ensuite régler convenablement les relations. Voilà l'extrait de la première phrase de Jacques Maritain. Et pour moi, ça présente un double problème de lecture dès cette première phrase. Qui constitue son entrée à la critique de la philosophie de Bergson à travers son concept d'intuition. Le premier problème est la définition non explicitée de ce qu'il appelle les métaphysiques modernes. Traditionnellement, dans la tradition universitaire française, on fait remonter la philosophie moderne à partir de Galilée et la fin progressive de la scolastique, jusqu'à la fin des Lumières. Or, dans cette première phrase, il dit « surtout depuis Kant », ce qui laisse à penser que pour lui, cette tradition moderne perdure jusqu'à son époque. Alors cela m'interroge sur sa prise en compte, d'une part, de la multiplicité des disciplines scientifiques qui s'ouvrent au XIXe siècle, avec le retour en force des sciences du vivant, et Bergson qui s'impose comme le philosophe du vivant. Et d'autre part, l'éclatement de la physique mécanique traditionnelle, l'apparition de la thermodynamique, de l'électromagnétisme, puis celle de la physique atomique et de la théorie de la relativité d'Einstein en 1905 et 1915. Bergson fait l'impasse sur la physique de son temps, qui se traduira par une incompréhension de la théorie de la relativité lors de sa rencontre avec Einstein à Paris en 1922. Et en ce qui me concerne, il est à craindre que Maritain, dans sa critique de Bergson, fasse la même impasse et assimile l'ensemble des sciences physiques à la science mécaniste de Newton. Ça, c'est le premier problème. Mais l'autre problème que je rencontre à la lecture de cette phrase, c'est cette opposition a priori entre objet et sujet qui serait apparue, selon lui, surtout depuis Kant. Or, il me semble, en ce qui concerne Kant, que cela demanderait quelques explications moins expéditives. En effet, il me semble que ce qui caractérise la pensée de Kant, ce n'est ni le sujet ni l'objet, mais la pensée transcendantale qui établit la relation entre les deux. D'autre part, pour Kant, l'objet de connaissance n'est en aucun cas un objet réel en soi, mais sa représentation, du moins, dans son esprit, dans son aspect phénoménal. Et à ce titre, il apparaît que les philosophes positivistes et empiristes ne se reconnaissent pas dans cette filiation d'idées.
Alors, votre lecture est tout à fait intéressante, mais je pense qu'on peut transcender finalement ce reproche d'aplatissement historique que vous faites à Maritain et de lecture finalement injuste de Kant, en rappelant que dans la tradition scolastique, l'acte de connaissance ne se fait pas de manière transitive, mais par intentionnalité, c'est-à-dire que le sujet devient en quelque sorte l'objet connu. Brentano rappellera cette intentionnalité, et puis ensuite Husserl. Nous pouvons le lire en 1924, quand Maritain écrira « Réflexion sur l'intelligence ». Toujours est-il que votre lecture est source d'une grande interrogation, puisqu'il s'agit du début donc, du livre de Maritain sur Bergson en 1913, et que dès le début, finalement, Maritain paraît comme quelqu'un d'hermétique, ou en tout cas de suranné, qui n'est plus possible de lire en 2020. Nous allons passer à un deuxième extrait de texte après une plage musicale que je vous propose d'écouter de manière particulièrement attentive. Il s'agit d'une pièce pour piano de Arthur Lourier. Vous avez remarqué que dans les trois émissions précédentes, vous avez entendu Valérie Arzoumanoff. Tous les deux ont en commun d'être des compositeurs russes. L'un toujours vivant, Valérie Arzoumanoff, et Arthur Lourier étant un des amis très proches des Maritains. Merci d'être attentif.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Après cet hommage discret rendu à Raïssa Maritain, russe, nous reprenons, Jean-Christophe, René, notre lecture de Maritain avec un deuxième extrait.
Oui, alors pour ce deuxième extrait, je vais poursuivre un petit peu sur le même thème à la page suivante, qui concerne toujours la métaphysique moderne. Voici l'extrait. Tandis que la métaphysique, obstinée à vouloir déduire l'évidence, cherche en vain son équilibre, passe de système en système et proclame à la fin sa totale impuissance, seule la science positive, entendons la connaissance physico-mathématique de la matière, s'imposant au monde par l'abondance inouïe de ses résultats de fait, comme de ses applications utilitaires, semble en possession des règles de vérité. Alors, ici, ce qui peut me poser en tant que lecteur naïf de l'œuvre de Maritain, c'est cette affirmation de la métaphysique obstinée à vouloir déduire l'évidence. Je pense que quand Maritain parle ici d'évidence, il veut parler de l'évidence de type scientifique. Or, en ce qui me concerne, la théorie scientifique ne va jamais déduire l'évidence. La théorie scientifique fait une spéculation, et cette spéculation a besoin d'une confirmation par un retour d'expérience donc par un phénomène inverse à la déduction qu'on appelle l'induction. Et si la synthèse de cette induction rencontre l'hypothèse de départ, alors on affirmera que la théorie est bonne. Mais il n'y a aucune garantie, bien entendu, à ce que la vérité première spéculée par la théorie soit confirmée par l'expérience. Donc, il me semble qu'affirmer que la métaphysique moderne est obstinée à vouloir déduire l'évidence, c'est un excès d'un ordre qui méconnaît la démarche scientifique.
Dans le métro, vous me parliez exactement de cette question en me faisant remarquer à très juste titre que les mots ont changé de sens, qu'on ne peut pas parler de métaphysique comme au temps d'Aristote, qu'on ne peut pas non plus dire la métaphysique est la science universelle ou suprême, la science des sciences, parce qu'on n'est plus dans le même contexte. Donc là, on entre davantage dans le cœur du sujet, puisque dans cette phrase, Maritain oppose finalement métaphysique et science comme deux lieux de vérité, et que finalement le lieu de vérité qu'est la science aurait éclipsé ou définitivement détrôné la métaphysique comme science des sciences, parce qu'elle est entachée au point de vue de l'homme moderne d'une certaine prétention, voire présomption, qui est intolérable. La question, justement, c'est dans une œuvre qui suivra, de 1932, Les degrés du savoir, Maritain va montrer qu'il y a différents degrés dans le savoir et qu'on va vers une différente connaissance, mais la métaphysique, pour lui, dépend forcément des dogmes de foi. Et c'est là que dans l'articulation philosophie et métaphysique et théologie, l'homme contemporain est perdu parce qu'il n'a pas les repères nécessaires. Et en fait, dans votre lecture, c'est ce que je sens pointer. Et pouvez-vous nous l'expliciter ?
Alors, je pense que vous avez tout à fait raison. Effectivement, comme vous l'aviez signalé en début d'émission, je n'ai pas ce cursus de formation ni théologique, ni encore moins de la pensée réaliste chrétienne. J'ai une formation plutôt scientifique et donc je n'affirmerai pas que la vérité scientifique, comme ça a certainement pu être fait à l'époque de Maritain, est la seule vérité. Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les sciences modernes récuseraient cette notion de vérité absolue des sciences. Les sciences, depuis Karl Popper, ne présentant que des vérités relatives qui peuvent être contredites avec une réfutabilité qui est le signe même pour Karl Popper d'une science et qui distingue par ailleurs une vérité scientifique d'une vérité non scientifique, ou de ce qu'il appellera des pseudosciences. La métaphysique, pour Karl Popper, est une pseudoscience, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de savoir, mais elle a un savoir de nature différente et qui n'est pas en soi vérifiable.
Alors, du coup, on a deux critères, l'expérience, la dimension vérifiable que vous évoquez à l'instant, et puis dans nos promenades ce matin, vous me parliez justement de ce changement de repère permanent. Einstein lui-même dit « Ma théorie est vraie jusqu'à preuve du contraire. Il suffira d'une expérience qui prouvera le contraire. » Et du coup, l'homme du XXe siècle et du XXIe siècle a fortiori est marqué par ce que j'appelle le relativisme, changement de repère. Y a-t-il une compatibilité possible avec le projet de la métaphysique, de la philosophia perennis, qui est de dire on va s'appuyer sur quelque chose de constant qui est commun à l'homme, quel qu'il soit, moins 8000 avant Jésus-Christ, plus 10000 après, Inuit, Aztèque, Français, Africain ou Belge. Et l'idée, c'est que finalement, dans les deux paramètres hérités de la scolastique, le plan du paramètre déterminant et le plan du paramètre conditionnant, la métaphysique s'attache au paramètre du plan déterminant. Alors que l'homme contemporain, il est marqué par le paramètre conditionnant, dont finalement le relativisme, même dans la modernité en science, serait une émanation ou un exemple direct.
Alors je ne pourrais pas vous répondre précisément sur ce qu'offrirait la métaphysique, étant étranger à cette métaphysique chrétienne, Mais en ce qui concerne les sciences, je vous rejoindrai sur le fait que les sciences du début du XXe siècle étaient des sciences très dominatrices et qui affirmaient une vérité quasi absolue. Mais ça serait aussi nier les évolutions scientifiques qui ont suivi immédiatement avec les théories d'Einstein d'une part et l'arrivée notamment de la physique quantique dans les années 25-30 et toute la réflexion scientifique autour de ce que l'on peut connaître et de la vérité scientifique. Karl Popper est effectivement beaucoup plus jeune que Jacques Maritain. Il est né au début du XXe siècle, mais il a été le premier à essayer de souligner l'aspect réfutable d'une science par rapport à d'autres dogmes, donc, comme la métaphysique, qui, elle, n'est pas réfutable en elle-même.
Oui, vous avez raison. Maritain parle de progrès par approfondissement, mais non par réfutation. Et nous reviendrons à la troisième plage textuelle après cette audition de Arthur Lourier qui me permet d'annoncer le prochain chapitre de 4 séances de Maritain qui sera autour de l'art.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Votre troisième texte, Jean-Christophe.
Alors, pour le troisième texte, j'ai choisi en fait un extrait qui peut résumer un petit peu mon inconfort à la lecture du texte de Jacques Maritain. C'est un extrait qui vient de ses commentaires à la deuxième édition. Donc, je vais lire le texte en question et on va pouvoir discuter de ce qui, moi, me pose problème dans ce texte. Tous ces traits sont également la marque propre de l'infériorité spécifique de notre intellect, le malheur propre d'un esprit qui est une âme, qui se nourrit par un corps. Ils sont dans notre intelligence comme la trace de la matérialité d'où elle émerge, tandis que l'intuitivité est en elle le vestige de l'esprit, d'où elle descend. Gardons-nous cependant de prétendre séparer cette intuitivité de cette rationalité, l'intellection du concept, la pure immanence intellective de la production des idées. C'est le péché capital non seulement du formalisme kantien, mais aussi du mobilisme bergsonien de disjoindre ainsi ce qui est un, de déchirer la vie de l'intelligence. Alors, je dirais que ce qui me gêne là-dedans, c'est deux aspects. C'est d'une part l'intrication dans le texte de Maritain d'aspects proprement philosophiques et d'aspects qui font plutôt appel à de la théologie, à mon sens. Les mots qu'il emploie, donc plus la forme que le contenu, mais les mots renvoie à cette théologie. Je pense au terme d'infériorité, le malheur, l'esprit avec un E majuscule ou le péché capital. Voilà ce qui, pour un lecteur moderne comme moi, peut poser problème et paraître rebutant pour comprendre le texte proprement philosophique de Jacques Maritain, qui par ailleurs a une lecture tout à fait intéressante de l'œuvre de Bergson.
Et la question que vous posez est fondamentale parce qu'elle rejoint le lien entre philosophie et théologie. Elle croise toute la problématique de Maritain, qui est celle de donner une autonomie à la philosophie par rapport à la théologie, une autonomie de manière organique et pas de manière ancillaire. J'en ai parlé dans une émission précédente. Et vous mettez le doigt sur cette problématique-là. Les termes que vous avez relevés, esprit, malheur, péché, renvoient évidemment à la créature marquée par le péché originel, créature déchue, mais sauvée et sauvée. Et sans cette vision, il est difficile évidemment de lire Maritain. Donc la question de fond qui se pose, c'est Maritain est-il encore lisible et surtout peut-il aider l'homme de 2020-21 à vivre, à penser son temps, à répondre aux matières et aux problèmes contemporains. Maritain est un philosophe de la cité qui a toujours été un interlocuteur valable pour les problèmes de son temps. Comment aujourd'hui quelqu'un pourrait-il en faire son bois, son feu, sa nourriture, ne venant pas de cet horizon ?
Alors, il m'est difficile à ce stade de ma lecture de vous répondre sur cette question. Je dirais qu'effectivement, à la vue de ce premier texte de Maritain sur la critique du bergsonisme, j'éprouve des difficultés à retrouver des éléments philosophiques à travers ce vocabulaire, ce référentiel auquel je suis parfaitement étranger. Maintenant, je veux bien continuer le défi de continuer à lire l'œuvre de Maritain et voir si, à travers d'autres ouvrages, j'arrive à retrouver quelque chose qui me parle en tant que philosophe contemporain.
Alors, comme vous êtes un éminent artiste, vous faites des photos superbes qui seront d'ailleurs sur le site. La fois prochaine, nous parlerons de l'art. Mais je voudrais terminer sur cette question de l'intelligence. Maritain, vous l'avez pointé ici, a une vision large de l'intelligence et ne supporte pas finalement qu'on la diminue ou qu'on la divise. Et c'est là l'essentiel de la critique bergsonienne. J'ai insisté sur l'intuition et la durée. Cette réflexion sur l'intuition, finalement, c'est l'intuition de l'être. C'est-à-dire qu'il y a une connaturalité entre l'être, qui est vraiment l'objet de la philosophie, et de la métaphysique, c'est ni le sujet ni l'objet pour finir l'émission. Et cette connaturalité de l'intelligence et de l'être fait que l'intelligence est faite pour saisir l'être et vice-versa, l'être est là pour être saisi par l'intelligence. L'intelligence qui est vue dans une perspective aristotélicienne des trois âmes, l'âme végétative, l'âme sensitive et l'âme intelligentiée. Et l'homme se différencie donc du règne végétal et animal par la puissance en intelligence et qui cependant est marquée par un corps, à la différence de l'âme intelligentiée des anges qui eux n'ont pas de corps. Je termine exprès sur cette hiérarchie, cette reprise d'Aristote en régime chrétien pour faire mesurer l'écart qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui n'est pas évidemment de cet horizon de pensée pour entrer dans le texte de Maritain. Pour conclure, je vais terminer par une phrase de Maritain, esprit dur et cœur doux, il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Et beaucoup ont l'esprit mou et le cœur sec. Et cette phrase est, on va dire, le motto, le leitmotiv de Maritain, son fil d'Ariane dans sa pensée. Elle vous permet de mieux comprendre pourquoi cette philosophie est si dure en apparence, si péremptoire. Mais peut-être que votre lecture vous permettra de découvrir l'homme derrière et ce cœur doux.
Je l'espère, en tout cas, je suis prêt à relever encore le défi.
Et je vous en suis très reconnaissante. À bientôt.
À bientôt, merci à tous.